Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je puis croire parce que je le veux. Une question de volonté. C'est véritablement le résumé de ce que nous allons évoquer ensemble à travers les pages que nous allons tourner dans notre Bible. Et c'est vrai que ça exprime bien. Personne ne peut dire « je ne peux pas croire ». On peut, si véritablement, nous demandons à Dieu qu'il nous donne dans notre esprit, dans notre volonté, cette capacité parce qu'elle vient de lui. Tout vient de lui. Et il n'y aura pas d'excuses. C'est vrai, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains, ils sont inexcusables. Parce que tout nous a été donné, tout nous a été offert. C'est à notre portée, mais il faut ouvrir son cœur. Parce que vous allez le découvrir ou le rappeler, je vais vous le rappeler ce matin, c'est une disposition morale de notre cœur, tout simplement, et qui se transforme en conviction. Alors, c'est vrai que nous allons justement prendre deux textes dans le livre du prophète Ésaïe. C'est une réflexion dans laquelle j'aimerais que nous nous penchions quelques instants et en renfort avec d'autres textes bibliques, parce que je reste convaincu que la parole de Dieu n'a pas besoin d'autres commentaires que la parole elle-même. Alors, Ésaïe, et là je pense que je suis sur un terrain très connu, Ésaïe 53, le verset premier. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 1er, et nous pourrions presque le citer de mémoire, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Permettez-moi de le relire. « Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Une autre lecture qui viendra compléter celle-ci et qui sera la conséquence, en quelque sorte, de ce que ce grand prophète de la Bible nous laisse et prédit. Dans Ésaïe, toujours, chapitre 48, verset 18, également un verset connu. Ésaïe 48, chapitre 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme les flots de la mer, si tu étais attentif à mes commandements. Le bien-être et ton bonheur ressembleraient à un fleuve impétueux et au flot de la mer. » Il y a une question cruciale que je vous propose, qui est celle-ci. En qui et en quoi doit-on ou peut-on faire confiance? La question est là. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous avons la réponse. Mais néanmoins, je crois que c'est bien de reposer les fondamentaux de l'enseignement biblique, évangélique, en qui pouvons-nous faire confiance? Sur quoi pouvons-nous reposer notre foi, notre espérance? Ou encore, une autre question, y a-t-il quelques valeurs, ou y a-t-il une valeur par excellence, une valeur sûre, une vérité intemporelle, pas comme dans ce monde où les vérités sont proclamées mais elles passent avec le temps, qui soit digne de confiance? Voilà l'autre question. Il y a un livre, vous en apercevrez parce que vous l'avez lu, et si vous regardez dans cette direction, vous apercevrez que le livre de l'Ecclésiaste, vous connaissez, un tout petit livre mais très intéressant, nous parle justement et répond à toutes ces questions. Il y a là en quelque sorte l'exposé des questions que les hommes peuvent se poser à travers tous les temps, dans toutes les générations. Il y a l'incroyant, qui dit que de toute façon, vanité, tout est vanité, puis ça ne sert à rien, buvons parce que demain nous allons mourir, et puis ça ne va pas plus loin que ça. Et puis il y a également le croyant avec sa perspicacité spirituelle qui découvre, à l'expérience, et à l'usage tout simplement de la vie, eh bien que ces questions peuvent être répondues. Et heureusement pour nous, heureusement que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, est venu nous révéler, eh bien, la réponse à tout cela. Et nous sommes loin, finalement, de tout connaître, mais néanmoins, c'est intéressant. Alors, nous allons considérer, en quelque sorte et brièvement, ça pourrait être un semi-message d'évangélisation, mais il y a de la réflexion, vous en conviendrez. Nous allons considérer l'état de l'homme sur le plan moral et spirituel, et ce qu'il en résulte sur le monde. Alors, je voudrais reprendre tout simplement à cette question qui nous est donnée, mais qui a cru et qui croira? Voilà. Qui a cru? Et nous allons en effet découvrir, dans l'exposé que nous fait le prophète, que cette citation d'Ésaïe traverse l'histoire d'Israël, mais aussi l'histoire de l'Église. Parce que la même question peut être posée aujourd'hui, dans notre temps, dans notre monde, qui se déclare d'obédience chrétienne, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on appelle la foi? Qu'est-ce que ça signifie pour les hommes d'aujourd'hui? Alors peut-être que chacun d'entre nous, nous pouvons très rapidement dire que la foi, eh bien, elle est essentiellement religieuse. L'émanation et l'activité de l'âme. Mais quand nous nous penchons sur les enseignements de Jésus, nous allons voir que ce n'est pas cela. Ce n'est pas le charnel, ce n'est pas l'émotionnel, ce n'est pas le sentimental, le religieux si vous aimez mieux, que Jésus nous enseigne. C'est une autre dimension, celle de l'esprit d'ailleurs. Il répondra à la Samaritaine que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité, donc les choses sont dites. Alors nous avons finalement à travers cela, eh bien, l'histoire d'Israël qui nous enseigne, c'est pour ça que j'ai choisi Ésaïe, nous répondrons par des textes du Nouveau Testament d'ici quelques instants, et puis l'Église naturellement. Il y a autour de cette parole, qui a cru? Qui a reconnu? Deux autres références bibliques qui sont mentionnées, l'une par Jean, l'apôtre, dans l'Évangile, et l'autre par Paul. Alors, je vais revenir justement d'abord à Ésaïe, et puis après nous allons prendre au fur et à mesure eh bien, ces données. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 1er, celui que nous avons choisi, l'image en quelque sorte nous transporte au temps où Israël va ouvrir les yeux avec stupeur. Parce que il faut bien dire que Ésaïe mérite son nom de prophète. Et 800 ans avant la venue de Jésus, il avait eu cette parole et cette vision de Dieu que le Messie viendrait, que le Sauveur, non pas seulement des Juifs, mais le Sauveur du monde entier viendrait. Et il a écrit, en tous les cas, des choses extraordinaires dans ce chapitre 53, nous ne l'avons pas lu. Mais en ce qui concerne la description des souffrances et de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alors, c'est vrai que qui a cru? Et nous pourrions dire, mais qui croira dans le temps? Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous est dit? À travers la prophétie accomplie, puisque aujourd'hui c'est accompli, on peut le vérifier, il suffit tout simplement d'avoir un peu d'intelligence, excusez-moi, de bon sens, d'intelligence et de sincérité, pour comprendre que les choses ont été faites. Ésaïe a dit, il a parlé au nom de Dieu, l'homme attendu est arrivé, l'homme-Dieu est arrivé, le Sauveur, le Messie. Donc vérification faite, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, nous qui sommes dans l'autre période, non plus de l'attente de la prophétie, de sa réalisation, mais nous sommes véritablement de plein pied dans ce qu'on peut appeler le christianisme évangélique, ou le christianisme tout court, où nous pouvons eh bien, d'autant plus croire, avec beaucoup plus de facilité que ceux qui vivaient du temps du prophète Ésaïe. C'était à venir, maintenant c'est fait. Et il y a encore des choses qui vont encore se réaliser parce que non seulement Jésus est venu, mais Jésus revient. Et ça fait partie aussi d'une partie constitutionnelle, constituée de son message, le message évangélique. Alors, le prophète a cette vision où Israël, à un moment donné, va ouvrir les yeux. Et il y a deux raisons. Il va ouvrir les yeux pour avoir d'abord, par le fait même d'avoir méconnu la parole prophétique, et les Juifs en sont encore là aujourd'hui. Les Juifs sont encore à l'attente d'un Messie. Première chose, et puis ils ouvriront les yeux avec stupeur parce qu'ils sont restés sourds aux révélations divines. Et pourtant, c'est le peuple du livre. Comme quoi, c'est le peuple de Dieu, le peuple enseigné avec tous ces grands prophètes, avec tous ces hommes d'une constitution, nous pourrions dire, extraordinaire. Je pense à Moïse, par exemple. Ils se réclament de Moïse. Mais finalement, eh bien, c'est resté lettre morte. C'est pour ça que Paul dira, eh bien, ils ont comme un voile devant les yeux, mais il faut qu'ils se convertissent. Et là, ils comprendront. Et nous bénissons Dieu qu'il y a déjà des milliers et des milliers de juifs messianiques aujourd'hui. Hein. Et nous pouvons prier pour Israël. Oh, les temps se préparent. Hein. On en a des effets tous les jours. Enfin, en tous les cas, nous pouvons deviner ce qui va se passer. Alors, ce qui est terrible, et c'est comme si le prophète dans sa prophétie, Ésaïe, disait avec une grande tristesse, mais en quelque sorte, est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont saisir la portée de ce message? Et les Juifs n'ont pas su identifier dans leur Messie, ni sa vie, ni sa mort. La mort, c'est le chapitre 53, descriptif. Sa vie, c'est sa sainteté. Ce sont ses paroles ineffables. Ce sont ses enseignements et ses gestes d'amour. Ils n'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient voilés, tout simplement. Ça, c'est la première étape, et la conséquence, eh bien, était très claire. C'est le rejet inouï, on peut dire inouï, d'un peuple préparé depuis des siècles, qui a été, ce rejet est dû tout simplement à la méprise sur le caractère infirme et le caractère modeste du Sauveur, alors qu'Israël s'attendait à un Messie glorieux, puissant, qui ferait des choses extraordinaires. C'est encore le chapitre 53. Relisez-le. Et vous souviendrez dans quelque sorte cette petite présentation brève. Mais ils n'ont pas su le reconnaître. Parce qu'ils s'attendaient à quelqu'un d'autre. Ils s'attendaient à autre chose. Leur foi était une foi religieuse. Une foi en quelque sorte, voire même superstitieuse. Une foi de routine. Une foi de répétition. Mais pas une foi de l'esprit. Et pourtant ils avaient été préparés à cela. De passer de cette religion qui n'était qu'un pédagogue, la loi, pour rentrer dans la plénitude de la vie spirituelle. Ils sont passés à côté, et ils y sont encore. C'est dramatique, et c'est pour ça que le prophète dira « Mais qui a cru? Mais qui a reconnu ?» Alors c'est vrai que Jésus était entouré de foule quand il est venu, mais foule de curieux, foule de gens intéressés parce qu'il faisait des miracles, parce qu'il parlait bien, parce qu'il nourrissait les foules, parce qu'il changeait l'eau en vin, et toutes sortes de choses. Mais c'est pas ça. Ça s'est passé à côté. Mais par contre, il y a eu aussi quelques... L'Église s'est constituée sur quelques-uns et s'est multipliée à travers les siècles parce que, comme la Samaritaine, les Zachée et puis bien d'autres, ont découvert autre chose. Même un centenier à la croix dira « Cet homme est le Fils de Dieu ». Vous vous rendez compte? Parce qu'il a su voir. Et aujourd'hui, faisons attention dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a tant d'informations, où il y a tant de choses qui sont brassées de droite et de gauche, où nous sommes ballottés de droite et de gauche, même dans les milieux évangéliques, dans les milieux du protestantisme, dans les milieux de même de nos églises. Ayons les yeux fixés sur Jésus et sa parole. C'est une recommandation, parce que je crois que les temps vont être des temps de séduction. Et Jésus, quand il en parle, par exemple, dans ce discours d'eschatologie, c'est-à-dire l'annonce de son retour, eh bien, Jésus nous dit bien, mais prenez garde à une chose en premier, d'être séduit. Alors, le seul moyen, c'est de pouvoir rester avec les yeux ouverts, avec un cœur ouvert et surtout attentif à la dimension de la vie de l'esprit. Autrement, je peux me permettre de vous dire que c'est perdu. Et il y a de grands pans de christianisme depuis 2000 ans qui sont tombés dans le religieux, qui sont tombés dans la tradition, qui sont tombés dans des dogmes, dans toutes sortes de choses, mais qui ne servent à rien. Puisqu'il n'y a pas d'assurance de salut, puisqu'il n'y a pas véritablement de communion avec Dieu, ou une illusion de communion, à travers des mérites, à travers des actions, des œuvres. Mais la foi, c'est tout à fait différent. Alors, ils se sont mépris sur la modestie et sur l'infirmité d'un tel sauveur, lui qui n'avait rien pour attirer nos regards. Ah, ça c'est sûr qu'ils ne l'ont pas vu. Ils pensaient voir quelqu'un d'autre. Mais c'était pourtant celui que Dieu avait envoyé pour s'identifier à la misère de l'humanité, pour vivre comme un simple homme, pour être comme un homme simple, pour mourir comme un homme simple, tout simplement. Ils ne l'ont pas vu. Qu'est-ce que nous cherchons? Des émotions? Du sentiment? Des vibrations? Alors là, nous allons nous tromper. Et attention, c'est un avertissement qui est quand même un grave avertissement, parce que nous pouvons passer véritablement d'un pôle à un autre, hein, très rapidement. Et je crois que notre vie spirituelle a besoin d'être fondée, surtout dans les temps de danger dans lesquels nous sommes. séduction, prenez garde que personne ne vous séduise. Qui a cru? Ça, c'était les temps anciens, du temps d'Ésaïe. Et il pose la question. Et ils sont tombés dans le problème de l'écueil des préjugés. Vous savez ce que c'est que le préjugé? C'est juger avant sans savoir. Ils savaient, mais ils ont préféré quand même encore juger, tout en sachant. C'est grave, hein? Parce qu'à ce moment-là, c'est de la mauvaise foi. À ce moment-là, c'est un déni. À ce moment-là, c'est véritablement une malhonnêteté intellectuelle et morale caractérisée. Ils savaient, ils avaient les textes en main, ils prenaient la Bible, ils la lisaient, ils la méditaient tous les jours, et malgré cela, ils n'ont pas vu apparaître celui que Dieu avait prédit, celui que Dieu avait annoncé, tout simplement. Les préjugés et le parti pris religieux. Oui. Si nous en voulons, eh bien nous en aurons. Et il y en a un qui nous servira justement des préjugés. Mais si nous voulons être droits et avoir la rectitude dans notre cœur, eh bien le Seigneur nous éclairera. Ce qui fera dire que dans les derniers temps, au moment où il y aura cette séduction qui viendra sur tous les habitants de la terre, Dieu nous fait la promesse qu'il nous garderait, qu'il nous préserverait parce que nous avons gardé la parole. C'est sa parole que nous avons gardée. Alors que Dieu nous fasse grâce. Ça, c'est la première proposition dans Ésaïe. La deuxième, c'est dans Jean. L'apôtre Jean, et nous allons voir le texte, au chapitre 12, c'est très bien de faire des recoupements et de faire tout simplement eh bien, ces petites analyses toutes simples, mais je crois qu'un chrétien, une église grandit quand elle est enseignée dans la parole, hein, pas autrement. Jean chapitre 12 et au verset 3, voilà, j'y arrive. Au verset 37, pardon, excusez-moi. Écoutez bien. Malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi ne pouvait-il croire? Parce qu'Ésaïe a dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Écoutez, d'abord, il nous est montré une chose qui semble évidente. Ici est souligné nettement que l'apparition du Messie pour les Juifs et du Sauveur pour nous, pour tous les hommes, Juifs et non-Juifs, se ferait par une démonstration de puissance et d'esprit. Malgré tant de miracles, malgré les choses extraordinaires, surnaturelles, malgré après avoir fait descendre du ciel tous les trésors célestes, eh bien, ils ne croyaient pas encore en lui. C'est dur, hein? C'est assez incompréhensible. Incompréhensible. Démonstration, nous dit Paul un peu plus loin, je vous ai prêché l'évangile par une démonstration, une confirmation de démonstration de puissance et d'esprit. Signe, prodige, guérison, Jésus quand il va envoyer ses disciples dans l'évangile de l'ascension, chapitre 7, évangile de Marc, il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et après, il nous est dit, mais le Seigneur, les apôtres allèrent partout, et ils prêchaient la parole, et le Seigneur confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, qui confirmaient sa parole. Jean, dans son écrit, stigmatise l'incrédulité persistante. J'ai l'habitude de dire, et je le rappelle ce matin à dessein, qu'il y a trois positions. Il y a l'incrédulité. À son extrême, il y a la crédulité. On est prêt à croire tout et n'importe quoi. Et au milieu, il y a la foi. Ouais. Et je pense que notre positionnement, c'est la foi. Il y a parfois des chrétiens incrédules, peut-être moins nombreux, parce que bon, ils sont quand même passés par une expérience, j'espère. La crédulité, ça, c'est peut-être plus fréquent chez les chrétiens. On est prêt à croire tout et n'importe quoi sans vérification de ce qui nous est enseigné dans la Bible. C'est dangereux là aussi. Hein. C'est dangereux. Mais Jean va mettre le point sur un fait, l'incrédulité persistante des hommes, même devant le miraculeux et le surnaturel. En tenant compte de la perspicacité que Dieu nous donne et du discernement de savoir l'origine de ce surnaturel et de ce miraculeux. On est bien d'accord. Parce que vous savez que le diable... Le monde occulte est capable de faire du miraculeux, du surnaturel.
Ça, on le sait, je le rappelle.
Cet endurcissement des hommes aura malheureusement pour résultat, eh bien tout simplement un aveuglement spirituel. Il nous est dit que Dieu a envoyé une puissance d'égarement, dans un autre texte. Mais là, il nous est dit, mais il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. C'est terrible, hein, de tomber dans cette situation. Non pas que ce soit véritablement Dieu qui l'ait fait de prime abord, mais c'est les hommes qui se sont rendus tels pour que finalement, eh bien, ils ne comprennent pas, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne guérissent. Ça, c'est l'histoire tout simplement de Pharaon qui a commencé à endurcir son cœur et après Dieu a endurci son cœur. Soyons et restons ouverts à la vie de l'esprit. Hein. C'est encore un avertissement. Et puis, il y a troisième plan, troisième proposition, c'est dans Romains. Et nous allons lire ce passage au chapitre 10. Romains, chapitre 10, et au verset 14 à 16. Et là, nous allons retrouver notre même texte. Écoutez bien. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» On revient toujours sur la même chose. C'est les trois références et les trois citations de ce texte. Qui a cru à notre prédication ? La prédication, ça peut peut-être être ennuyeux pour certains, mais c'est un délice et un repas, un festin pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Indépendamment du messager, parce que je voudrais quand même rappeler, et vous m'avez souvent entendu le dire, que le plus important et l'important, ce n'est pas celui qui prêche, c'est son message. Il y a parfois des chrétiens qui courent de droite et de gauche parce qu'ils ont trouvé un prédicateur d'exception. Alors, désolé pour moi de vous décevoir, hein, mais toujours est-il que c'est pas ça ce qui doit nous faire courir. S'il y en a un qui doit nous faire courir, c'est Jésus. C'est sa parole. C'est ce qu'il nous enseigne. Parce que c'est quelque chose, la prédication. C'est tout, d'ailleurs. Et c'est tout, pour la raison que je vais vous donner. La prédication de l'Évangile, dans son exactitude et en inspiration par l'Esprit, c'est l'essence même du message de Dieu pour tous les hommes. Je dis bien, sans exception, pour tous les hommes, pour tous les hommes. C'est une universalité qui annonce le salut. Les Juifs incrédules, figurez-vous, et on le constate dans tous les rapports qui nous sont faits sur la vie de Jésus à travers les évangiles, les quatre. Les Juifs orthodoxes, les Juifs férus de l'Écriture sainte, enfermés à l'étroit dans leur judaïsme, eh bien, figurez-vous, s'opposer à ce que les païens entendent le message de la foi et de la grâce en Jésus-Christ. Ils couraient après Jésus pour le saisir, pour le faire taire. Quand vous voyez un apôtre Paul, Pierre, les uns et les autres, qui sont persécutés de ville en ville, parce que c'est précisément la synagogue qui les persécute, les Juifs dans un premier temps. Et ils sont capables, ces Juifs hostiles à Jésus et à son message, et hostiles aux apôtres qui servent Jésus, de monter des foules de païens contre eux, contre les disciples. Alors ils s'opposaient, ils se sont toujours opposés, parce qu'ils ne voulaient pas eux-mêmes de ce message. Et n'en voulant pas eux-mêmes de ce message, ils empêchaient les autres, et ils empêchent encore les autres de croire, selon ce que nous dit Matthieu, parce que là je crois que c'est aussi très évident, qu'est-ce que Jésus nous dit ? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. C'est dramatique, hein ? Pour des gens qui se réclament de servir Dieu, d'adorer Dieu, jusqu'à vous mettre à mort croyant rendre un culte à Dieu. Et ça, c'est l'esprit religieux. Vous savez que nous allons, et nous sommes déjà, dans un temps, et nous allons rentrer de plus en plus dans une confrontation dans notre monde avec le fait religieux. D'un côté l'islam, le christianisme, les persécutions, etc., etc., et toutes sortes de religions qui se mélangent, soit en violence ou soit d'une manière très subtile. Je pense à toutes les religions orientales qui ne font peut-être pas trop de bruit, mais qui font un dégât considérable. Hein, oui. Alors il y en a qui sont plus violentes, hein, le djihad et tout ce que vous voudrez. Mais ça va être un choc de culture, mais dont le principal, le centre sera la religion. Je crois que c'est André Malraux qui a dit que le 21e siècle sera un siècle religieux. On reviendra à cela. Et pendant 20 siècles, le monde a été ensanglanté par, finalement, des guerres de religion. On y revient, hein. Ce ne sera pas forcément politique, hein, seulement politique. Ça va être terrible. Et nous voyons que ce soit les Juifs d'hier dont Paul parle, ou que ce soit peut-être le monde chrétien apostat, va être persécuteur et va devenir une opposition à ce qu'on n'entende pas la parole de Dieu, qu'on entende des histoires, qu'on entende des légendes, qu'on entende des contes, qu'on entende toutes sortes d'approximations du message évangélique, ça ne les gêne pas, au contraire. Mais le message de Jésus, qui amène les hommes au salut par la repentance, par la conversion et la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, ça dérange. Ça dérange. Je dis que ce sont des tentatives d'avortement spirituel criminel. Les mots sont forts. Si vous ne me voyez pas dimanche prochain, c'est que j'aurais été mis en prison. Mais bon, on n'en est plus à ce temps-là, mais bon, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Parce que ça dérange. C'est ce qui faisait grincer les dents, hein, contre Jésus, parce qu'il disait la vérité. Jésus a donné un coup de pied dans la fourmilière de l'institution, en quelque sorte. C'est pourquoi la citation d'Ésaïe, qui a été reprise par Paul au chapitre 10 de notre épître aux Romains et au verset tout simplement de verset 20, il est dit ceci, cette parole, et Ésaïe pousse l'hardier jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas ». C'est formidable, ça, moi je crois que c'est un verset extraordinaire. Puisque les Juifs n'en voulaient pas, eh bien, Dieu va se tourner vers les autres. « Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas ou qui ne me demandaient rien. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contradisant. » C'est terrible, hein. Est-ce que vous croyez pas que dans notre monde qui se dit chrétien, qui confesse un christianisme, qui confesse le christianisme, voire même en lui donnant cette belle appellation d'évangélique, mais qui n'a rien d'évangélique, croyez-vous que ce monde n'aurait pas besoin de revenir aux sources, de revenir à la Bible, de revenir à l'essentiel Jésus, au lieu de se perdre dans un labyrinthe de saints, de saintes et de toutes sortes de dévotions et d'adoration de l'homme, c'est de l'idolâtrie, hein. C'est une monstrueuse idolâtrie. Et ça, encore une fois de plus, c'est opposé à la vie de l'esprit, c'est la chair. Parce que ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à nos propres pensées, à nos propres idées. Eh oui. Je voudrais simplement ajouter que si Israël avait cru en Jésus, eh bien, Israël serait devenu aujourd'hui le messager de la grâce pour toutes les nations. Mais qu'est-ce que nous entendons? Il ne l'a pas voulu. Je puis croire si je veux croire. On l'a chanté tout à l'heure. Oui. Mais tu ne l'as pas voulu. Jésus pleurant sur Jérusalem dira, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous voulons et que nous désirons et entretenir, c'est le vouloir vivre la vie de l'esprit et rester dans la dimension de la vie de l'esprit. Le verset nous dit, et c'est, je crois, un des plus beaux versets de la Bible, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Je vous l'ai dit et je vous le répète, moi je ne veux pas faire autre chose que de prêcher l'Évangile, même si je ne fais que ça. Le reste ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas la mission que Dieu m'a donnée. Prêcher l'Évangile, enseigner, simplement. C'est important. Parce que si je m'en tiens à cette parole, la foi vient de ce que l'on entend. Si on ne fait pas entendre, comment les gens croiront-ils? Parce que ça ne passe pas par les autres sens de l'humanité. C'est pas par les yeux, c'est pas par le goûter, c'est pas par le toucher, mais c'est par l'oreille. C'est l'oreille. Vous avez vos oreilles? Que celui qui a des oreilles entende. Hein. Vous êtes venu avec vos oreilles ce matin. Bon. Je suis heureux parce que, autrement, je vous coupe les oreilles. C'est ce que l'on dit aux enfants. Hein. Voilà. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est clair, c'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Il y a là l'origine, la parole de Christ. Il y a là aussi la transmission, l'écoute. Entendre. Ce que les gens ont besoin, c'est d'entendre. Il y a tellement de choses que les hommes ne savent plus entendre ou ils ont fermé leurs oreilles à cause du grand bruit de l'humanité. Il y a du bruit, hein. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 ou chapitre 18, il nous est dit cette parole que lorsqu'il va y avoir tout ce tohu-bohu de la fin des temps, il n'y aura plus un bruit sur la terre. Les gens vont devoir s'y habituer, hein. On n'entendra plus la parole ou le chant de l'époux et de l'épouse. On n'entendra plus le chant de ceux des artisans. On n'entendra plus rien du tout. Ça va être quelque chose, hein. Le grand silence. Les gens vont tomber malades, vous rendez compte, ils vont faire de la déprime, hein. Eh oui. Mais nous, il faudra que nous apprenions quelquefois à faire le silence sur beaucoup de choses. Oui. On va pas être comme les Athéniens, qui ne passaient leur temps qu'à écouter les nouvelles. Alors, si vous voulez des nouvelles, France Info, et puis voilà, BFM, vous prenez ce que vous voulez, vous choisissez. Mais c'est ça, on a c'est un fleuve, hein. Mais comment peut-on écouter encore le Seigneur? Parce que le bruit, ils sont à l'extérieur, mais ils sont aussi dans notre cœur. Les craintes, les angoisses, les peurs, toutes sortes de choses. Et il y en a un qui est très habile pour augmenter le son et donner de la décibelle, hein. Croire. Paul écrira un peu plus loin. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, les incrédules, ceux qui sont renfermés, ceux qui peuvent entendre l'évangile et qui ne donnent pas suite, ceux qui restent le cœur fermé, qui se disent, moi je ne veux pas ça. Ça ne m'intéresse pas. La prédication, c'est une folie. Et nous sommes des fous, nous, les prédicateurs. Ça va? Vous osez pas me le dire, hein? Mais bon, vous avez le droit de penser. Eh oui. Une folie pour ceux qui périssent, parce que notre message est un message qui embarrasse, qui dérange, un message qui gêne. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et moi j'aime ça parce que c'est ça ce que nous avons besoin. C'est pas la puissance des hommes, c'est pas la puissance du prédicateur, c'est pas la puissance d'une église, sa renommée, son envergure. C'est la puissance de la parole, de la prédication. Et je crois que si nous voulons voir des résultats dans nos églises, il faut prêcher l'évangile. Et pas substituer l'évangile avec toute autre chose. Moi, je suis prêt à voir et entendre beaucoup de choses. Mais en tous les cas, là où j'ai mes responsabilités, c'est que les gens entendent le message de l'évangile. On va pas le remplacer par autre chose. Parce que l'autre chose, c'est bien, ça peut être une préparation. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole qui est conduite par l'Esprit. La parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Restons sur la parole. Une première conclusion logique. Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé par cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et figurez-vous, ce matin, je me présente devant vous. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la foi. Et c'est pour ça que je parle. Ah oui, quand même. Vous seriez étonné, hein, du contraire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il croit même pas ce qu'il dit. Ah oui, mais attention, tout ce que nous en sommes, nous croyons ce que nous disons, hein. Ce que nous confessons, hein. Et Paul ajoute, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et la parole, c'est la parole de Christ que nous faisons entendre. Et c'est cette parole de Christ qui engendre la foi dans les cœurs. Sans elle, il n'y a rien du tout. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir toutes sortes de choses, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que cela. Alors, je reviens brièvement sur ce que nous avons entrepris dès le départ. J'aimerais simplement dire quelques mots. Des points de repère. C'est prendre en considération l'état et les conditions de notre humanité. Vous savez que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, cette parole que je lis, pour nous montrer que nous sommes certainement dans la proximité du retour de Jésus et faisons attention parce que l'état moral et spirituel, malgré les apparences, n'est pas ce que l'on pense, hein. Surtout l'état spirituel dans les apparences. Sache que dans les derniers jours, c'est 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, hein, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. Là, c'est ce qui est dit, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la foi, de la piété, d'une prétendue confiance en Dieu, mais seulement dans l'apparence, mais en reniant ce qui en fait la force. C'est bien notre monde d'aujourd'hui, notre monde chrétien d'aujourd'hui, dans sa généralité je parle, hein, et faisons attention que nos églises ne soient pas aussi atteintes par ce virus. Mais c'est exactement la constatation que le prophète Ésaïe faisait de son temps, de son peuple il y a 800 ans avant la venue de Jésus, où tout n'était que rite, tradition, coutume, religiosité, mais rien d'autre. C'est exactement le même report que nous avons dans le judaïsme ancien, comme dans le christianisme nouveau, enfin, nouveau façon de parler, où là, comme s'il y avait un voile. Et vous savez, vous touchez et vous provoquez, c'est pas à faire, hein. Les convictions religieuses des gens, vous allez voir comment ils peuvent devenir méchants et comment ils peuvent se rebeller. Oui. Ça, c'était quelque chose, hein. On l'a vécu, ça. Moi, j'étais pas plus religieux qu'un autre, mais quand on parlait de mal de ma religion, je bondissais. Je voulais pas en entendre parler. Ouais. Parce qu'il y a comme une réaction, hein, derrière. Ouais. Alors, si on réagit pour la vérité, non pas pour l'erreur. Certainement. Hein. Alors, c'est ce qu'il nous est dit. Ça, c'est l'état général de notre monde d'aujourd'hui. Et puis, sans vouloir rentrer dans les détails, mais Jésus nous dira, comme nous l'avons cité tout à l'heure, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est vrai, mais il y aura également une mise en garde pour ne pas nous laisser séduire par toutes sortes de doctrines où l'on dira « Je suis le Christ » et toutes sortes de choses, des nouveautés ou des choses inédites. Vous comprenez ? Et pourtant, Jésus va nous dire, « Eh bien, voyez, la perspective de mon retour. » Il y aura d'abord la séduction psychologique, la séduction. Mais après, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Il y aura là toutes sortes de maladies, des pestes, enfin, toutes sortes de choses. Où Jésus nous parle des maux, il nous parle des fléaux, des troubles et des désastres. Et nous entendons au plus profond de l'histoire biblique quelqu'un qui a écrit un psaume extraordinaire qui s'appelle David et qui dira et qui soupirera peut-être même pour lui-même et pour aussi son peuple, mais qui nous fera voir le bonheur? Et c'est au milieu de tout ça que nous vivons. Qui nous fera voir le bonheur? Est-ce que ce ne serait pas, s'il n'y a pas la foi en Dieu, si on n'est pas conduit par la prédication de l'Évangile sur les vérités divines, eh bien, n'y aurait-il pas justement, eh bien, qu'une illusion et qu'un mirage devant les hommes? L'examen et le bilan est réaliste. Le livre de l'Ecclésiaste dont je vous ai parlé tout à l'heure nous dit ceci. Je crois que ça résume beaucoup de choses. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, je vous en ai parlé, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit à cause de ses inquiétudes et de ses angoisses pour le devenir, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil, il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. C'est le monde et l'épuisement du monde d'aujourd'hui. Hein. Ne nous laissons pas entraîner dans son épuisement, à vouloir pénétrer tous les mystères, à vouloir tout connaître, hein. Surtout en dehors de Dieu. Ça ressemble à Babel tout ça. Hein. Oh oui, ça ressemble à Babel. Que croire? Une espérance, un espoir pour demain d'un monde nouveau et d'un avenir meilleur, c'est ce qu'on nous dit tous les jours. Lorsque vous prenez les médias, lorsque vous regardez les programmes politiques ou économiques d'une manière ou d'une autre, et même peut-être, eh bien là, les beaux sermons religieux, ah oui, nous arrivons à quelque chose de formidable, nous allons y arriver. Écoutez, cet été et ces dernières semaines, je pense que nous sommes plutôt sur la tangente à virer dans l'effroi, lorsque nous voyons les guerres, lorsque nous voyons toutes ces catastrophes, et je ne vous parle que de l'instant, mais quand même. Je pense que ça devrait faire réfléchir le monde. Et nous cherchons un monde meilleur, un monde sans Dieu, un monde où l'Évangile, finalement, eh bien, a disparu, ou tout simplement, eh bien, on l'a gommé. Oui. Le monde moderne, dans lequel nous vivons, est empoisonné. On appelle ça de l'intox moral. Et quelquefois, nous pouvons l'être, nous aussi. Hein, à haut niveau, par une information diluvienne, ça nous tombe dessus, et qui exclut totalement les bonnes nouvelles, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Oui, il y a beaucoup de nouvelles, de mauvaises nouvelles hein, dans le monde. Si on va nous montrer peut-être quelques personnes qui sont là sur la plage en train de, voilà, dans l'insouciance, bon, je ne juge pas. Mais à côté de ça, vous avez une série, on parle ici, on parle là, et on nous montre des photos, on nous montre des vidéos, toutes sortes de choses tragiques. Hein. Et c'est dans ce contexte-là que le monde va s'améliorer, qu'il va aller dans le bon sens. Je crois que ça devrait pouvoir interpeller. Et surtout, la gravité de notre monde, c'est que on a honte de la bonne nouvelle. Vous avez vu les émissions de sorcellerie, ou les émissions de magie, ou les émissions qui n'ont rien à voir avec... Mais par contre, si l'on veut avoir quelques audiences sur les médias, c'est interdit pour nous. Hein. Vous savez ça, interdit. Alors, on comprend que tout ça, ça s'enfonce. Poursuite d'un prétendu âge d'or qui se construirait sur les ruines d'une humanité perdue, égarée, désespérée et désabusée. C'est pourquoi le prophète fait entendre sa voix. Derrière le prophète, il y a l'apôtre Jean qui nous fait entendre aussi sa voix. Sous la même inspiration, il y a Paul qui nous fait entendre sa voix sous la même inspiration, et ils nous disent tous, qui a cru? Qui a cru? Qui a reconnu? Et moi je voudrais dire aujourd'hui, mais qui croira encore? Et qui reconnaîtra que dans le message de l'évangile, et dans la vie de chaque chrétien converti, rempli du Saint-Esprit, il y a un témoignage de Christ? J'espère que vous êtes d'accord, parce que nous sommes aussi ses ambassadeurs. Nous sommes d'un autre royaume, et nous plaidons pour le royaume de Dieu. Vous savez, la Babel d'hier, elle est toujours debout. Hein. Et vous savez ce que ça veut dire Babel? Confusion. Tout simplement. Quand on entend les discours et les prétentions des gouvernants mondiaux pour éradiquer le mal primaire, qui est le péché, la mort, les crimes, toutes ces choses sordides, qui ensanglante, où la terre est à feu et à sang, quand on entend leur discours, on sait très bien qu'ils n'y arriveront jamais. Je voudrais décourager personne, mais ils n'y arriveront jamais. Parce que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est une autre vérité. Puis vous savez, le mal primaire, il a un nom. Ça s'appelle l'incrédulité. Ouais. L'incrédulité. Tout simplement, les réponses, il n'y en aura pas s'il n'y a pas des fondements solides, s'il n'y a pas un retour de nos générations qui se disent évoluées et super prospères, mais qui, d'un autre côté, fait la démonstration de plus en plus d'angoisse, de plus en plus de problèmes intérieurs devant un hypothétique futur qui leur promet, comme on l'a dit tout à l'heure, l'âge d'or, mais qui ne viendra jamais. C'est ça le problème, c'est ça l'analyse que nous pouvons faire. Le diagnostic, il est là. Alors une autre question, et je vais bientôt terminer. Y a-t-il quelque chose de bien? Y a-t-il quelque chose de bon? Y a-t-il quelque chose de bien et de bon à attendre? Un espoir venu d'ailleurs, qui remettrait le cours de la vie dans le sens du vrai. La chronique est défrayée par des mensonges, par des trafics, par toutes sortes de choses qui, nous, simples citoyens, nous interpellent et nous amènent finalement à nous poser des questions. C'est vrai. Y aurait-il finalement quelque chose qui remettrait le cours de la vie dans la liberté? Parce qu'on parle beaucoup de liberté, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus captifs dans leurs pensées, captifs de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de substances, de toutes sortes de folies, pour faire comme tout le monde probablement, ou pour faire taire peut-être le volcan qui est en eux, qui est en ébullition. En somme, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ramène les hommes au bon sens? Le sens bon, ou le bon sens, comme vous aimez mieux. Parce que l'évangile, c'est tout simplement ça. Hein. L'évangile est un message d'équilibre, hein. C'est pas un message qui amène les gens à être éthérés, à ne plus avoir les pieds sur terre. Au contraire, quand vous voyez le modèle parfait de Jésus, c'est un modèle d'équilibre, de modération, de pondération, de maîtrise de soi. Alors c'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec les envolées lyriques. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, bon, c'est vrai, je veux bien croire. Mais il faut faire attention parce que nous avons un témoignage autour de nous. Et si c'est pour que les gens nous disent ils sont fous ces chrétiens, bah je pense qu'on est à côté de notre mission, hein. Donner envie aux hommes qui sont de l'extérieur de vivre ce que nous vivons, de vivre avec Jésus. C'est pour ça que Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et le sel a cette capacité, c'est qu'il nous donne soif. Ce soir, ce midi, prenez une bonne ration de sel. Vous allez voir, vous allez boire toute l'après-midi. Enfin, après, moi je décline, hein, je vous fais pas d'ordonnance, mais bon, vous vous débrouillez. Alors, cet espoir-là, il existe, hein, et il faut le croire, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'Évangile. Alors Dieu parle et avertit solennellement qui veut encore entendre naturellement. Et c'est sous cette forme de ce message qui nous est donné à travers ce programme suivant qui est la primeur du message de Jésus. Et je vais terminer sur ce passage. Quand il nous est dit dans Luc chapitre 4, et ça vous le connaissez, c'est toujours encore de l'inspiration de Dieu, toujours donné à Isaïe, mais dans l'évangile de Luc, il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous avez le condensé, vous avez la totalité de l'évangile à travers tout ça. Nous n'aurions que ça. Une seule page dans notre Bible et ce texte, c'est suffisant pour que le monde soit sauvé. S'il le croit. S'il le croit. D'abord, une bonne nouvelle. Dans un monde où il y a tant de mauvaises nouvelles, ça ferait du bien quand même, hein. Comme la pluie qui vient après la sécheresse. Dans ce monde d'informations, de déclarations et de promesses qui sont vaines. Jésus nous parle également, lui qui est venu et qui accomplit. Il nous parle d'une bonne nouvelle pour tous les pauvres et les exclus du partage. Oui, et il y en a, hein, quand vous voyez que il y a les trois quarts de l'humanité qui n'ont pas de quoi manger, ou presque, ou qui font un repas pour certains une fois tous les deux jours. Oui, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur, dont le cœur a été endommagé par la vie, les heurts et les chocs de l'existence. Une bonne nouvelle pour ceux qui traînent des chaînes, enfermés dans des prisons en tout genre. Elles n'ont pas besoin d'être visibles, ces prisons, elles peuvent être à l'intérieur des gens. Et Jésus nous en parle, c'est une bonne nouvelle. Qui sont esclaves et qui sont tombés finalement dans la servitude de notre société moderne. On vit dans notre temps, moi je ne suis pas contre. On est impliqué dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Mais attention, il y a des pièges. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont devenus chrétiens, mais qui sont retournés maintenant dans la servitude et dans les chaînes. Parce qu'ils n'ont pas prêté suffisamment attention aux avertissements que le Seigneur nous a donné. Alors ne retournons pas en arrière. Il y a une vraie lumière également dont Jésus nous dit, parce qu'il nous parle des aveugles qui vont recouvrer la vue. Une vraie lumière pour les faux aveugles. Ceux qui sont aveuglés et qui ne le savent pas. Aveuglés par toutes sortes de mirages. Aveuglés par toutes sortes de propositions. À travers toutes sortes de passions. Et quand on est passionné, on ne voit plus rien. On ne voit plus que la chose qui nous captive et qui nous tient. Jésus nous en parle. Il y a une véritable promesse de liberté à travers ce que nous avons lu, quand il nous est dit que, eh bien, le Seigneur va libérer les opprimés, faire tomber les chaînes. C'est le texte, hein, tout simplement. Jésus le dira dans un autre passage, vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la vérité? Elle va vous affranchir, elle va vous libérer. Et cette vérité, elle est proclamée par le message de la prédication. On revient toujours à la même chose. Avec le nec plus ultra de la proposition, je vous enverrai une année de grâce, la grâce, le pardon, et tout ça, comme le dit le livre du livre des Actes, un temps de rafraîchissement. On a besoin d'être rafraîchi, hein. On a eu un été torride, hein. Vous avez vu hier? Vous avez chaud? Moi, j'ai chaud, là. C'est vrai, hein. Mais, rafraîchissement intérieur, la vie de l'esprit, qui coule comme des fleuves d'eau vive et qui nous transporte et qui nous vivifie. On a besoin. Si peut-être vous êtes asséché, comme on peut l'être quelquefois, dans la vie spirituelle, la vie de l'esprit, demandez, le Seigneur va nous donner, et il va vous donner le rafraîchissement dans un renouvellement du Saint-Esprit. Vous qui êtes baptisé du Saint-Esprit et qui priez en langue, priez encore en langue. Et toujours en langue, et là vous allez vous ressourcer. Sans ça, on ne peut rien faire. Mais bien entendu qu'on ne peut rien faire. Ouais. C'est un bon programme si nous voulons croire et si nous voulons reconnaître ce qui nous a été donné, c'est un bon programme dont nous n'aurons pas à rougir et dont nous n'aurons jamais à regretter. Paul dira « Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Nous n'avons pas à avoir honte et nous n'avons pas et nous n'aurons pas à regretter le chemin que nous avons fait si nous restons sur cette parole. Mais qui voudra le croire? Qui voudra le croire? Ah oui, dans Jean, quand je dis que je termine lentement, hein, et ça vient. Jean, chapitre 8, et on va lire, c'est intéressant, écoutez bien. Pourquoi dit Jésus dans l'évangile de Jean à ses détracteurs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ça, c'était pas Isaïe qui parlait, c'était Jésus qui parlait, qui confirmait ce qu'Isaïe avait donné. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, dira Jésus. C'était des gens religieux, hein. C'était la, nous pouvons dire, la monoclatura d'Israël. Alors, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et je poursuis, puisque lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du menteur. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous croyez quand même ce que je vous dis ce matin? Oui, c'est... Oui, enfin bon, d'accord. Je recommence dans 10 minutes après, là. Hein. Voilà. Vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je vous dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et moi, je me réjouis ce matin de ce que vous êtes de Dieu. Parce que vous ne seriez pas là ce matin. Mais qu'est-ce que nous allons faire demain? Et après-demain? Et dans les jours qui vont venir? Dans les années qui vont venir? Il faut garder. Qui voudra reconnaître ce fait de Jésus et de son message encore aujourd'hui? Qui est pleinement accompli. Les choses sont faites. Qui aura l'audace d'y croire? On a fait une petite page imprimée, là, que vous trouverez, il doit être à distribuer. Ça fait des années que nous avons ce petit fascicule. Ça veut dire qui aura l'audace d'y croire? Vous pouvez le prendre. C'est pour montrer aux gens, dans une approche simple, de les amener à la lecture de l'Évangile, à découvrir Jésus. Qui aura l'audace d'y croire? Folie ou sagesse? Les faits et les fruits. Les faits, nous les avons dans l'Évangile, nous pouvons les croire. Et les fruits, eh ben, c'est une vie transformée. C'est la puissance de Dieu manifestée à travers son Église. Et Jésus de nous dire, « Lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore de la foi ?» La question est là. On a commencé par une question, fini par une question. Mais chacun peut y répondre à cette question, pour nous-mêmes en tous les cas. Est-ce que je trouverai de la foi? Bien sûr, on va vous dire d'une manière générale, mais il n'y a jamais eu autant d'églises, il n'y a jamais eu autant de gens qui, là, font ceci et cela. Mais c'est pas la quantité, c'est une question de qualité. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons entendu, de ce que Dieu nous a donné? Trouverai-je encore la foi sur la terre? Et je termine par où nous avons commencé. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, à mes paroles, à la prédication, au message de la bonne nouvelle. Eh bien, sache que ton bien-être serait comme un fleuve, et le bonheur et ton bonheur comme les flots de la mer. Oui, comme les flots de la mer. On est bien placé pour savoir ce que c'est que les flots ici, naturellement, et le fleuve aussi, parce que c'est la convergence entre la Loire et puis l'océan. Eh bien, c'est tumultueux quelquefois, hein. Mais il y a de la vie. Il y a de la vie. Et ce que nous avons besoin, que si nous restons sur sa parole, que nous gardons sa parole, alors à ce moment-là, nous avons la promesse d'une bénédiction particulière. Alors, nous pouvons dire, nous avons cru et nous avons reconnu que ta parole est la vérité, Seigneur. On va prier quelques instants, si vous voulez. On va demander au Seigneur de nous visiter et de nous rafraîchir et de nous ranimer peut-être. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que, Seigneur, à travers de simples mots qui résonnent à travers l'histoire d'Israël, c'est vrai, mais à travers l'histoire de l'Église, notre histoire d'aujourd'hui, tu nous poses encore la même question. Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel à travers le Sauveur, à travers le Seigneur Jésus? Oui, nous pouvons dire et nous voulons croire encore. Eh bien, Seigneur, que nous avons mis toute notre confiance et que nous ne serons jamais déçus ni confus. Merci, Seigneur. Lorsque nous croyons en effet, Père éternel, que ta parole demeure, c'est la parole de Dieu qui est véritablement, Seigneur, la semence pour l'éternité. Merci Jésus de nous rappeler que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.